do something drastically.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec
Franck,
Sabrine,
Steph,
Philippe
et Florine. Une émission collective à géométrie variable des bénévoles de la Grange aux Parapluies, association atypique et espace de vie sociale qui vous propose tous les mois un éclairage sur un thème qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler ésotérisme, spiritisme, ovni. Alors, c'est parti pour vivre une expérience surréaliste ensemble ?
Oui !
Alors, moi, je vais commencer par vous parler du surnaturel. Donc, généralement, quand on pense au surnaturel, il y a toute une imagerie qui s'invite à la table, peuplée de fantômes, de démons, de philtres et de mages. Mais c'est à la figure de la sorcière que je souhaite consacrer quelques minutes. Qui est-elle, la sorcière ? Évidemment, c'est une femme. Dans la représentation populaire, c'est même une vieille femme ridée, aux cheveux blancs, mal fagotée, qui sent le rance et pue la méchanceté. C'est celle dont il faut se méfier, celle qui fraye avec le diable. Elle jette des sorts et fait partie de confréries qui se réunissent la nuit au clair de lune pour convoquer et se soumettre aux malins, leur maître incontesté. On a tous en tête la figure de la reine dans Blanche-Neige, lorsqu'elle recouvre sa vraie personnalité et qu'elle devient la sorcière qui offre à la belle la pomme empoisonnée. La sorcière, c'est celle qui vous perdra, c'est l'incarnation du mal. On peut s'amuser de la caricature. Pourtant, l'histoire démontre qu'il n'y a là rien de drôle et que ces représentations ont donné lieu à une chasse aux femmes d'une violence inouïe. En effet, la chasse aux sorcières a donné lieu à des crimes de masse. Ce sont en Occident des milliers, entre 60 000 et 200 000 selon les évaluations, de femmes qui ont été torturées et mises sur le bûcher. Mais qu'en est-il de ces femmes ? Souvent, ce qui est visé, c'est leur liberté, leur autonomie, le fait qu'elles ne soient plus filles d'eux, plus ou pas femmes d'eux. Ce sont celles qui n'ont pas d'enfants aussi. Ce sont des femmes qui ne dépendent pas, qui n'appartiennent pas à un homme, qui ne rentrent pas dans le rang et qui sont donc suspectes. Mais plus largement, c'est toute femme qui n'adopte pas un comportement conforme qui peut être sur la sellette. Écoutons donc Mona Chollet dans son livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Toute tête féminine qui dépassait pouvait susciter des vocations de chasseur de sorcières. Répondre à un voisin, parler haut, avoir un fort caractère ou une sexualité un peu trop libre, être une gêneuse d'une quelconque manière suffisait à vous mettre en danger. Ainsi, tout pouvait être prétexte à la dénonciation, à l'arrestation, au procès sans appel et au meurtre. Mais les études montrent aussi que souvent les femmes visées étaient celles qui soignaient, les sages-femmes, celles qui connaissaient les plantes, qui calment, qui apaisent et qui soignent. La sorcière apparaît alors comme celle qui a un lien particulier avec la nature, celle qui est à son écoute et qui sait en tirer bénéfice dans le respect du vivant. Ainsi, dans le livre « Sorcières, sages-femmes et infirmières », Barbara Ehrenreich et Deirdre Englisch montrent que les sages-femmes ont été convaincues de sorcellerie afin d'interdire la pratique du soin aux femmes et de réserver la médecine naissante et le pouvoir qui va avec aux hommes. Le sujet pourrait donner lieu à une émission complète, tellement il est vaste et passionnant, car il interroge à la fois sur le statut des femmes et des hommes, le rapport à la nature, au pouvoir et à l'oppression. L'histoire des sorcières est toujours d'actualité, car les féminicides ont toujours cours et qu'il est temps de travailler à des rapports humains et à l'environnement qui trouvent leur enracinement ailleurs que dans les rapports de domination et de soumission.
Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain. Puis comme l'écran nous fatiguait, on l'a éteint. On est sorti sous le ciel noir, tout dégagé. Et on a laissé les étoiles tout effacer. Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain. Reçu des nouvelles du monde lointain.
Et les jeunes, ils en pensent quoi du surnaturel ?
Le surnaturel, le paranormal, ça te fait penser à quoi, Bérénice ?
Des choses qu'on voit pas souvent dans la vie quotidienne.
Amandine, ça te fait penser à quoi, toi, le paranormal ?
Non, c'est pas.
Non ? Manon, ça te fait penser à quoi, le surnaturel, le paranormal ?
Des histoires d'horreur. des histoires où on ne sait pas forcément si elles sont vraies ou fausses. Voilà.
On n'a pas de preuves. Fanny, toi, t'as envie de dire quoi ? Ça te fait penser à quoi, le paranormal ?
Ça fait penser à des objets qui bougent tout seuls ou à des fantômes ou des trucs.
Ah ouais ? Est-ce que tu crois en des trucs bizarres, invisibles, fantômes, verres qui bougent, autre chose ?
Non.
Et toi, Manon ?
Moi, j'y crois pas forcément, mais je suis pas non plus fermée à l'idée.
Un peu comme Manon, je sais pas trop.
Est-ce que parmi vous, quelqu'un veut raconter juste une petite histoire ? Un truc surnaturel qui est arrivé ?
En fait, un jour, je sais pas, j'écrivais sur des cartes, mais genre, c'était des trucs, on avait plein de cartes sur une table. Et j'écrivais, et j'ai remis ma tête, et je les ai plus jamais revues, les cartes. Genre, elles ont disparu du jour au lendemain, vraiment. Mais en fait, je vous jure, j'ai cherché de partout, sous la table, elles pouvaient être n'importe où. Je les ai jamais trouvées. Jamais, jamais, jamais. Alors que c'était vraiment sur la table, genre, elles sont jamais tombées.
Et finissez toutes les quatre sur le YouTuber Squeezie. Qui il est dans ce thème-là ? Il est le premier à en parler ou il est le plus fort ou...
Bah comme c'est le youtubeur le plus connu de France, bah du coup c'est celui qu'on regarde le plus. Il est un peu connu pour raconter des histoires d'horreur et puis il les dit bien donc.
Et qu'est-ce qu'il raconte ?
Il raconte des histoires qui sont arrivées à des gens ou qui sont... Ouais, je crois que c'est forcément arrivé à des gens. Enfin après ouais. On sait pas s'il ment ou pas mais voilà. Donc lui juste il re-raconte les histoires des gens, voilà.
Et lui, il dit que c'est vrai, Fanny, ou que c'est faux ?
Lui nous dit que c'est vrai, enfin, des fois, il nous dit que c'est...
Non, en vrai, il est neutre. Hein.
Non, des fois, il nous dit que c'est vrai quand il a des informations, mais après, des fois, il le dit pas, enfin, ça dépend.
Il y a un exemple d'histoire ?
Bah, c'est souvent... Bah, un thème, c'est des intrusions.
C'est surtout des apparitions ou des trucs comme ça.
Ouais, des intrusions où il regarde des gens... Enfin, où il y a quelqu'un qui regarde...
Ouais, mais c'est pas paranormal.
Ouais, c'est vrai.
Ah, si !
Le petit qui était mort, elle le voyait dans les escaliers. Et elle voyait son fantôme, tu sais, parce qu'après, il s'est décidé.
Ah oui !
Allez-y !
C'est la nouvelle vidéo, là, qu'on a regardée.
Allez-y !
Ah oui, c'est ça ?
En fait, oui, il y avait une fille qui voyait...
C'est pas Squeezie, du coup ?
Si. Alors, c'est lui qui l'a raconté. En fait, il y avait une fille qui voyait ouais. Un petit garçon dans l'immeuble en face. Mais en fait, c'était la seule à le voir. Et elle s'est rendue compte que c'était un petit garçon qui était censé être mort il y a longtemps. Oui, voilà.
Alors aujourd'hui, trois nouvelles histoires, trois nouveaux témoignages de gens qui ont vécu un truc très creepy dans leur vie. Encore une fois, il n'est toujours pas question de paranormal, de surnaturel, il est question juste d'humains chelous, oppressants, bizarres, menaçants, dont malheureusement, certaines personnes ont croisé la route et ça a donné une expérience vraiment chelou et un peu traumatisante.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange. L'émission qui dégrange.
Les synchronicités, du mot féminin de la racine grecque syn chronos, réunir le temps, on parle d'une simultanéité, c'est ce qui se passe en même temps.
par une logique irrationnelle ou un illogisme rationnel, comme vous voulez. Il s'agit donc d'une occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les reçoit ou les perçoit. Et moi, j'en ai environ un tous les 15 jours, en moyenne. Je pense d'ailleurs que tout le monde a des synchronicités, mais comme toujours, on n'a pas tous la même sensibilité, le même intérêt, la même observation sur les événements. Bref, on n'attache pas tous la même importance aux synchronicités, ce qui n'est évidemment pas grave. Pour les adeptes de Bouddha, la synchronicité représente la magie ordinaire, ce qui suggère que tout est lié, tout est interdépendant. Alors, un exemple, l'autre jour au boulot, j'ouvre un dossier, alors j'en ai potentiellement possibilité d'en ouvrir 30-40 par jour, et à peine je l'ouvre, paf, mon téléphone sonne, une dame m'interroge sur ce dossier que je venais d'ouvrir. Voilà. Coïncidence, oui, mais pour moi surtout synchronicité. Alors quelle conclusion j'en tire ? Juste que je suis bien conscient, bien connecté au monde qui m'entoure. Les synchronicités sont autant de moments qui nous interpellent et résonnent en nous à un moment précis. Je pense que toutes et tous, vous avez vécu de telles situations qui vous font hésiter entre le pur hasard, la coïncidence, ou éventuellement un signe à interpréter. Alors il y en a un qui s'y intéressait beaucoup, c'est Carl Gustav Jung, et il dit que ces hasards n'ont rien de fortuit. Voilà, c'est pas moi qui le dis. La synchronicité répond à la nécessité que quelque chose émerge de l'inconscient et amène une transformation. Bon, cela fait partie de ce qu'il appelle le processus d'individuation, la réalisation de soi. Compliqué. On s'accomplirait donc aussi par ces signes synchro. J'admets que les discours vulgarisés du rayon développement personnel des librairies incitent les gens à voir des signes partout, aujourd'hui. Pour moi, le concept de la synchronicité devient, depuis peu, le prêt-à-porter, une méthode que l'on vous vend, plutôt qu'un questionnement tout simplement sur le sens. Pour expliquer ce phénomène, je propose de distinguer donc la synchronicité de la coïncidence banale. Oui, la synchronicité est une coïncidence, mais qui prend du sens, provoque, en tout cas chez moi, une émotion forte. C'est porteur d'information, porteur de transformation, du coup, et se produit à un moment opportun de ma journée. Une coïncidence, pour moi, c'est deux fois par an. Une synchronicité, c'est donc une fois peut-être tous les 15 jours, ou au moins une fois par mois. Donc, j'y mets davantage du sens, bien que n'ayant pas les moyens intellectuels d'en tirer ici, dans Briques et Pavés, une conclusion scientifique.
Revenons à la science-fiction avec la question de la Red Team. Alors, je suis comme vous, certainement. Il y a quelques jours, je ne connaissais pas la Red Team. Je pensais que c'était le cri de ralliement des amis de la Scuderia Ferrari ou une confrérie de vin du Bugey. En fait, pas du tout. En 2019, la Red Team a été constituée, devinez par qui ? Par le ministère français des armées. En fait, le ministère français des armées s'est rendu compte que les généraux et autres gradés de tout poil avaient peu d'imagination pour comprendre le monde dans lequel ils étaient et du coup anticiper et organiser les futurs conflits qu'on allait se prendre sur le coin de la figure. Donc le ministère des Armées a choisi avec des universitaires d'élargir le champ de la réflexion et d'associer des personnes pas du tout militaires à ces travaux. Alors Stéphanie, qui a-t-elle associé dans la Red Team ?
Alors, il y a entre autres Jeanne Bréjon, designeuse Thalès, François Chuiten, dessinateur BD, Hermès, scénariste, Romain Lucaso, auteur, Virginie Tournay, auteur, et Xavier Mauméjean, auteur également.
Donc on le voit, en 2019, l'armée se tourne vers des auteurs de science-fiction et des dessinateurs pour effectivement se dire qu'il faut comprendre effectivement les futurs conflits qui seront plutôt le fait de hacking, de désinformation et d'autres choses comme ça. On est loin de la version franchouillarde et trépotage de la SF qu'avait popularisé René Fallet dans La Soupe aux Choux. Et oui, Franck, je suis content d'avoir cité René Fallet avant toi. C'est une première. Et René Fallet, d'ailleurs, qui a été incarné au cinéma dans cette Soupe aux Choux par l'inénarrable Jean Carmet, qui fait aussi plaisir de citer. Mais revenons à nos questions militaires. Question d'autant plus surprenante dans ma voix que de culture personnelle, je suis plutôt antimilitariste, car oui, c'est un objecteur de conscience version années 80 qui vous parle. Mais je dois avouer que j'ai évolué sur cette question de l'armée comme sur d'autres. Je m'explique. J'ai été content de voir dans les années 90 la fin du service militaire obligatoire. Pour moi, cela signifiait une armée publique de métier et donc je me disais, ceux qui veulent y servir, y vont, les autres non. Eh bien, comme pas mal de fois, je me suis un peu trompé de scénario, car là aussi, la réalité a dépassé la fiction ou est en train de dépasser la fiction. Le constat est simple, et celui-là factuel, il y a une crise de vocation dans l'armée, la grande démission, même chez la grande muette, en somme. Et malgré les clips de recrutement version jeux vidéo, les casernes ne sont pas remplies. Dès lors, un verrou supplémentaire, pourrait-on dire, est en train de sauter. On assiste à une ubérisation de la force publique et à sa privatisation. Traduction, si on sous-traitait à des milices ce que l'État ne peut ou ne veut plus faire. C'est ce qu'explique un autre auteur, Kamal Redouani, dans son livre tout récent « Les nouveaux chiens de guerre ». Kamal Redouani, c'est un documentariste, grand reporter, qui a assisté à l'émergence de ces groupes privés sur de nombreux terrains de guerre. Malheureusement, on est assez coutumier du fait depuis un an et demi, puisque avec la guerre en Ukraine, on est familier de Wagner, on en soupe du Wagner, on va bientôt le connaître par cœur jusqu'à l'écœurement. Mais Wagner, c'est l'arbre qui cache la forêt de Black Shield, Sadat et autres Blackwater, des sociétés militaires privées qui n'ont jamais été aussi nombreuses dans notre beau pays et dans notre belle terre. Elles sont de plus en plus puissantes et interviennent sur tous les fronts. Elles sont aujourd'hui des acteurs incontournables de la guerre, des milices qui, avec des moyens différents et des intérêts financiers et une idéologie particulière, se permettent de commettre des crimes, de déstabiliser des pays fragiles, d'influencer des élections, et tout ça en niant toute responsabilité. Donc on le voit, effectivement, Kamal Redouani pointe dans son interview que les Blackwater, qui est une des plus grosses effectivement, compagnies privées, revendiquent en 2023 800 000 collaborateurs à travers le monde. Pour vous donner une comparaison, l'armée française, c'est 300 000 hommes, maintenant que nous sommes sur une armée de métier. Donc, ça rend modeste, comme dirait l'autre. Et histoire d'en rajouter une couche, pour, même si je ne veux pas vous déprimer, je dois vous dire que la société Blackwater a été fondée par Eric Prince et que la sœur du petit Eric n'est autre que Betsy DeVos, qui a été, elle, ministre de l'Éducation durant le mandat Trump.
Mais Philippe, si on revenait à la Red Team...
Oui, pardon. Donc, revenons à la Red Team, même si, effectivement, cette parenthèse nous montre bien que... on a un petit peu peur de l'avenir et de ce qui peut s'écrire dans ces moyens-là. La Red Team est donc un produit collectif de scénarios de guerre de demain pour titiller les militaires et pour que le renseignement s'interroge et déporte sa vision pour envisager des choses qu'ils n'auraient pas imaginées, trop pris dans leur logique de leur quotidien. On dit souvent que le nez dans le guidon ne pilote pas bien. Là, c'est un peu la même idée. Donc, je vous invite à retrouver tous les scénarios de la Red Team dans le premier opus qu'ils ont sorti, puisqu'il a été publié comme comme un livre de science-fiction classique, « Ces guerres qui nous attendent, 2030-2060 ». La science-fiction, ou plus largement l'anticipation, a des vertus. Elle met des mots et des dessins et des pistes sur ce qui nous attend, sous-entendu, à nous de rectifier le tir, si je peux me permettre l'expression. Dès lors, quand même, je m'interroge. D'un côté, on écoute, voire on encense des personnes qui viennent d'horizons différents et réfléchissent aux guerres de demain, l'intelligence collective en somme. Jusque-là, on peut être tous d'accord. Pourquoi alors, celles et ceux qui réfléchissent aux causes actuelles et à venir du réchauffement climatique et aux conséquences prévisibles de tous ces dérèglements sur nos modes de vie ne sont pas écoutés? Pire, pourquoi décrédibilise-t-on les paroles des spécialistes de la terre, de l'eau, de la faune, de la flore et des climats avec un terme bien réducteur d'éco-terroriste, terme qui effraie dans les foyers? La France a peur, comme le chantait Mickey 3D. Ne nous trompons pas de combat, Red Team ou pas. Et pour finir cette chronique, je souhaite donc solennellement une longue vie à la Green Team.
Merci Philippe. Et place à la suite avec Henri, libraire SF à Cuisery.
Rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc
aujourd'hui en direct de Cuiserie, dans une des boutiques de bouquinistes, avec Henri de la boutique Lyra, nouvellement installée.
Cette installation s'est faite un peu bizarrement, puisque auparavant je déballais à l'extérieur, et on est venu me proposer de reprendre le magasin qui se libérait. Voilà.
D'accord, donc le livre est une passion depuis de nombreuses années pour vous ?
Depuis que j'ai été interne à 14 ans.
D'accord.
Je suis tombé dans une librairie, justement, les fleuves noirs, anticipation, et je suis plus ou moins resté dedans.
Voilà, c'est ce que vous m'avez dit, c'est voilà. Souvent le cas des bouquinistes, il y a quand même au départ une passion des gens qui collectionnent, et petit à petit, on en a tellement que ça devient un métier.
Après, voilà, on en fait son métier, parce qu'on en a un peu trop.
Et donc la science-fiction, c'est quelque chose, effectivement, qui est aujourd'hui, que vous sentez que toutes les générations sont accro à la science-fiction ? Vous avez quel type de public par rapport à ça ?
Un peu moins accro à ce qu'on appelait la science-fiction au départ, anticipation, puisque maintenant ça tourne plus sur la fantasy que la science-fiction, bon voilà, pure si on peut dire.
D'accord.
Si on peut dire.
Et donc les premiers, s'il fallait débuter, parce que moi je connais peu la science-fiction, qu'est-ce que vous avez vous comme référence personnelle ?
Les tout premiers, c'est genre Isaac Asimov, Clark, Barjavel, Wells.
C'est intéressant de citer Barjavel, parce qu'en fait, des fois, on a une image américaine de la science-fiction, mais en fait, il y a eu des grands auteurs français.
On peut même citer Jules Verne, d'un certain point de vue, pour Voyage vers la Lune ou Voyage au centre de la Terre. Oui, c'est de l'anticipation, en fait.
Et ben, j'ai un autre, donc dans la même émission, on va parler d'un bouquin qui a été fait par la Red Team. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la Red Team.
Non.
Ça vous dit quelque chose ?
Non, ça me dit.
C'est un lien avec la science-fiction. C'est en fait, j'ai été très surpris de découvrir ça. C'est le ministère des Armées qui, en fait, a demandé à des philosophes, des écrivains et des designers, donc écrivains notamment de science-fiction, de réfléchir à ce que pouvaient être les conflits de demain pour imaginer un peu plus largement que dans leur vision de chef de guerre, entre guillemets. Et donc voilà, je vais faire une petite chronique sur cet ouvrage que j'ai découvert, mais qui est surtout une approche que je trouve intéressante de la science-fiction, puisqu'en fait, c'est finalement pour essayer d'anticiper, mais pour de vrai, ce qui pourrait arriver demain.
Oui, anticiper le futur sur une base de départ, oui, c'est pourquoi pas.
C'est vrai, mais quand on voit par contre, effectivement, sur tout ce qui est communication et puis traçabilité, on se rend compte, moi-même, sans être un grand spécialiste de la science-fiction, parfois la réalité l'a dépassé.
Peut dépasser, genre les drones, par exemple.
Ouais. Tout à fait, il y a un grand débat actuellement sur les drones, sur l'image qu'on peut avoir, et effectivement ça pose question effectivement sur des choses qu'on pensait être du ressort des livres de science-fiction à 30 ans, mais qui sont à nos portes.
Oui, oui, exact.
Et donc pour finir, Henri, si on veut vous retrouver, donc c'est comment fait-on ?
Cuiserie, 35 Grande Rue, et pour l'adresse mail, paulyh@orange.fr.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, Henri, merci beaucoup. Prenez bien place à Cuiserie, et puis au plaisir de vous rencontrer.
Eh bien, on continue, on s'accroche, et on va continuer.
Eh bien, très bien. Bonne lecture à tous.
Merci.
Changer les paysages, il dit qu'il faut stimuler les espoirs.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
En préparant cette émission, j'ai pensé à mon voisin Joël Braillard qui habite Saint-Jean-sur-Essouze. Il est juste incroyable. C'est un puits de science, un passionné de tout et il adore partager ses connaissances. Eh bien, mon voisin, il plante pas ses arbres n'importe où et il va nous l'expliquer.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous intéresser aux champs électromagnétiques et aux réseaux telluriques qui sont présents partout dans le monde. On ne peut pas y échapper. Ces deux réseaux sont très importants parce qu'ils provoquent des champs électriques ou des champs électromagnétiques qui vont rentrer en conflit avec nos propres champs personnels. Nous avons, nous, ce qu'on appelle un champ électrocellulaire, c'est-à-dire que nos cellules vont produire une énergie qui pourra servir pour certains qui sont plus doués que d'autres, par exemple, à guérir les gens en pratiquant ce que les gens font appel à des rebouteux, pour barrer le feu, barrer les brûlures, etc. Alors, dans les champs électrotelluriques, donc, il y a deux champs qui sont particulièrement nommés, c'est le réseau Hartmann et le réseau Curie. Ils portent le nom de ces deux scientifiques qui ont étudié ces champs et qui ont donc expliqué à quoi ils servaient et ce qu'ils provoquaient. Plus particulièrement, parler du réseau Hartmann. Donc, c'est un champ électrotellurique, magnétique, qui est dans l'axe nord-sud, est-ouest. Donc, ça fait des quadrillages, un peu comme la maille d'un filet. Vous avez des carrés. Et la jonction donc, de ces champs électromagnétiques, on appelle un nœud. C'est-à-dire qu'il y a la jonction donc, de deux champs. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'au milieu du carré, on appelle ce qu'on appelle la zone neutre, ou que moi j'appelle la source de vie. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut planter son arbre, ou qu'il faut se positionner pour ne pas subir les conséquences néfastes de ce champ électromagnétique qui va entrer en conflit avec notre champ électrocellulaire. Donc chez moi, où j'habite, à Château-Giroux, j'ai installé pour les promeneurs un banc que j'ai placé en source de vie, donc qui se trouve placé au centre du carré Hartmann. Et ce banc donc, est bénéfique puisque si vous venez à vous asseoir dessus, vous posez maintenant 5 minutes, vous allez vous recharger un peu comme une batterie, vider vos énergies négatives et recharger des énergies positives. Alors pour savoir les conséquences néfastes de ces champs sur la nature et sur l'homme, il vous suffit d'observer autour de vous. Regardez les arbres. Un arbre qui ne pousse pas droit, pour ne pas dire oh, bah, c'est le vent qui l'a perturbé, qui l'a couché. Non, non, non. C'est qu'il cherche, lui, à éviter le magnétisme de ce fameux champ Hartmann. S'il est planté en source de vie ou en zone neutre, vous allez avoir un développement harmonieux. Par exemple, si vous passez chez moi, vous verrez, j'ai planté un érable en source de vie. Vous verrez, le tronc est droit. Le développement est harmonieux absolument. Par contre, mon père avait placé des arbres fruitiers, des pêchers, des merisiers, qui poussent tout de travers, et qui sont d'ailleurs en train de mourir, parce que justement, ils ne sont pas plantés où il faut, donc ils cherchent, en se penchant à droite ou à gauche, à éviter donc ce magnétisme. Donc, les animaux, également, sont perturbés comme nous, et ils évitent de se mettre dans ces mêmes positions. Sauf deux exceptions, le chat et les hirondelles, qui rechercheraient plutôt, à l'inverse des autres animaux, comme les bovins, les chevaux, les chèvres, etc., à éviter le champ Hartmann. Ils rechercheraient plutôt l'aspect négatif de ce champ. Pour quelle raison, je ne sais pas. Alors maintenant, concernant donc les rebouteux, nous sommes plus ou moins récepteurs ou émetteurs. Certains sont plus doués que d'autres, mais ça se pratique. Comme un sportif de haut niveau, on peut s'entraîner et devenir plus performant. Par exemple, pour chercher l'eau, on va utiliser les fonctions donc de réception de cet électromagnétisme qui est provoqué par la source. Et donc, si je m'entraîne, je vais devenir de plus en plus performant, meilleur au fur et à mesure de mon entraînement. Également, je serai meilleur le matin quand je suis reposé que le soir quand je suis fatigué. Donc, un conseil, dans votre maison, évitez d'installer votre fauteuil pour regarder la télé sur un nœud Hartmann ou un champ magnétique Hartmann. De même pour votre lit, quelquefois des personnes qui dorment mal, il suffit de déplacer le lit de 20 cm pour vous dormir un peu mieux.
Taking care of you, be given.
Merci Jimmy pour la technique. Bon les copains, vous avez reconnu ce générique? Et oui, c'est...
X-Files.
Eh oui, aux frontières du réel. Un peu comme dans notre quotidien en fait. Bon, attention, chronique high level, niveau connaissance. Jimmy nous balance un extrait et vous devinez le film ou la série qui lui correspond. Thème, ovni, extraterrestre, surnaturel quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes au taquet?
Ouais. C'est pour Philippe.
Allez, s'il te plaît Jimmy, son numéro 2.
La soupe au chou.
Bravo, je vous avais prévenu. Hein. La soupe au chou, mais décidément, t'en avais déjà parlé, Fifi. Donc voilà, ça nous tient à cœur. On était obligé de faire un petit clin d'œil. Merci, c'est parti pour la suite. Son numéro 3. Ouais, c'est beaucoup plus difficile. Peut-être que la réponse est dans la chanson, c'est pas.
Ghostbusters.
Oui,
bravo.
Années 80. Hein.
Un point pour Steph, bravo. Attention, là, on monte. Hein. Son suivant, c'est le 4, Jimmy, s'il te plaît.
Oh là là.
E.T. sans fin. E.T.
E.T. Oh, mais Steph, elle a tout révisé.
T'as déjà fait du vélo dans l'espace, toi.
Je crois que c'est clair.
Bon, je vous avais dit, hein, c'était une chronique proche du chef-d'œuvre.
Hein. Ah, bah, c'est un chef-d'œuvre.
Allez, c'est parti pour le numéro 5.
Chanel. Chanel.
Faut juste écouter.
Je crois que c'est
Men in Black.
Ouais, bravo les filles, Men in Black.
C'était facile.
Ouais, c'était facile. Ah, le 6, peut-être moins facile. Allez, s'il te plaît. Moi-même, j'avais pas reconnu. Hein.
Logiquement, vous devez vous planter.
Fait peur. Ça fait peur.
Michael Jackson.
Thriller. Non.
Non.
Thriller, non.
Non, non, il n'y avait pas.
Il n'y a que ça.
Bêtes immondes. Ça...
Sigourney.
Je l'imite bien quand même.
Alien.
Hein. Alien, bravo Fabrine. Bon, allez, une petite dernière parce qu'on ne va pas faire trop long non plus. Par contre, c'est le plus surréaliste de tous. Hein. Ah, écoutez bien. Ouais.
Dans les 5 ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste. Est-ce qu'il faut reculer la gigane qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe,
quand même, hein, ça
c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit.
Et oui.
Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal.
Hypocrite.
Quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté,
1936 revient.
Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité.
Et voilà.
Ce serait hypocrite.
Il ment.
Voilà, je vous avais dit, c'était une chronique aux frontières du réel. Merci à vous pour votre participation.
Merci.
Une petite dernière intervention.
Briques et pavés.
L'émission qui dégrange.
En ce moment, quand je vais faire le plein et les courses, c'est surnaturel.
Merci pour cette dernière intervention de Stéphane. Bon, bah, les copains, je crois que c'était encore une émission bien surréaliste. Notre monde n'est pas facile à comprendre. On dirait bien que les faits surnaturels jonchent notre quotidien, en fait. C'était mieux avant ? Pas sûr, mais pour le vérifier, viens-y donc à la Grange aux Parapluies le samedi 10 juin à partir de 14h pour une incroyable fête médiévale totalement décalée. Ce sera la fête des...
Gueux.
Concerts, spectacles, démonstrations en tout genre, ateliers et franches rigolades, ça c'est sûr dès 14h. On termine avec un petit Nosfell.
Allez,
bisous.
Bye.
À bientôt.
Fältelen Un conxe de soebla Minda la txinka Des de clim de coi goe O son de l'imsa Tinia cele ben blocuts En de fer la solonda D'un diana Choco sandila Our fella walks alone through your lens and your ears. He was born to do so that no one would interfere. Fella being made of hands, flesh and wood, though he needs people to swarm around him every time he would make his chord swing deep inside his heart. And Nostrum fellow isn't someone you can even stop walking.
subtile.
Concha de soy bla minda la chinka desde clean de colvo o sumbalamsa. Tinha cerebem blogo tenda fela solunda dun diana choco sandila. I'm walking and feeling the scratch on my dreams. I fight against the sweetened disease. I need, I feed, I love and breed and spread it all over again. You're dancing for your star, it shines above your eyes, hoping the light would spread and break the gates of your devoted mind for it to bring you out of this world around. But your sweet mother first fella, you have to bring her down. Concha de soy bla minda la chinka desde clean de cuadro o fundalemse. Tinha celebem blogo tenda fella solunda dun.
You're dancing through my spine, it's made of gold and silver. The man behind the line will offer you some slivers of so many lies hidden behind the trees. Then you'll be walking through the desert to feed up your disease.
Concha de soy bla minda la chinka desde clean de cuago o fundalemse. Tinha cerebem blogo tenda fela solunda dun diana choco sandila.
I'm walking and feeling the scratch in my dreams. I fight against the sweet disease. I need, I feed, I love and breathe and press until stress grows mean. I'm walking, feeling they scratch my dreams. I fight against the sweet disease. I need, I feed, I love and breathe it out and just spread it. You're dancing like a cat and wiggling like a snake. No one can bring you down, no one will ever break your neck. 'Cause underneath this pure stainless skin lives a humble monkey with the heart of a king.
Briques et pavés, pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange aux Parapluies.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.